Salut les pilgrims, bienvenue dans Pèlerinage américain, le podcast culture et aventure aux États-Unis. Moi, Alex, à 30 ans, je suis parti en stop à la rencontre de communautés aux quatre coins des États-Unis. Tout semble les opposer et pourtant elles ont un point commun. Elles font des pèlerinages, à des centaines de kilomètres de chez elles, pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens, en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés, d'accablés ou de fils spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Merci aux donateurs qui soutiennent ce podcast sur la page patreon.com/salutlespilgrims. Un grand merci à Nicolas Fauchier-Magnan, Philippe-Édouard Gardel, Henri Constant et Thierry Fauché. Grâce à vous, l'avenir de pèlerinage américain s'éclaircit un peu plus. Allez, aujourd'hui, troisième épisode en lien avec la présidentielle américaine. Une élection qui, après une attente interminable, a désigné son vainqueur.
CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
Eh oui, Joe Biden a battu Donald Trump et deviendra le 46e président des États-Unis. Mais Donald n'aime pas être un loser. Si les résultats sont contre lui, c'est qu'il doit y avoir une fraude. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de nous faire croire sans aucune preuve. Ses espoirs de rester en place sont quasi nuls. Mais il tente le tout pour le tout en demandant des recomptes de voix et en multipliant les recours juridiques devant la Cour suprême. Mais à ce jour, Biden a un pied et demi à la Maison-Blanche. Biden devient ainsi le premier catholique élu président depuis un certain John Fitzgerald Kennedy. Il sera aussi le premier président d'ascendance irlandaise depuis JFK, ou JFK, et Biden confie volontiers qu'il a été très inspiré par Kennedy. Et pour cet épisode présidentiel, on va justement parler de John F. Kennedy et des pèlerinages pour cette icône de l'Amérique. Et on va aussi se pencher sur son frère, Robert Francis Kennedy, qui fut ministre sous JFK et lui-même candidat à la présidence. Robert, alias Bobby, est lui aussi considéré comme une icône démocrate, notamment pour sa lutte contre les inégalités. Pourtant, ni John ni Bobby n'étaient destinés à de telles carrières politiques. Certes, il venait d'une famille immensément riche et truffée de politiciens, avec un grand-père maire de Boston et un père ambassadeur en Grande-Bretagne. Mais ce père, justement, n'avait pas placé ses espoirs politiques en eux, mais dans l'aîné de ses 9 enfants, Joe Kennedy. Alors Joe s'engage en politique, mais aussi dans l'armée, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais le destin frappe une première fois la famille Kennedy en 1944, quand l'avion de Joe s'écrase en mission. Et 4 ans plus tard, l'avion de sa sœur Kathleen se crache lui aussi, sans survivant. C'est donc le deuxième fils Kennedy, John, qui concentre désormais tous les espoirs de son père. Comme Joe, John a participé à la Seconde Guerre mondiale, dans la Navy, et il en ressort en héros. Après un naufrage dans le Pacifique, John a en effet sauvé son équipage, et son père se débrouille pour que ses exploits soient connus dans toute l'Amérique. En plus d'être un héros de la guerre, John est jeune, il est beau et il s'exprime bien. Cela fait de lui un candidat idéal pour représenter une Amérique moderne et il gravit les échelons politiques un à un. En parallèle, son père lui arrange un mariage avec la ravissante Jacqueline, plus connue sous le nom de Jackie, qui a 12 ans de moins que lui. Ensemble, ils auront 4 enfants. Et en 1961, c'est la consécration pour la famille Kennedy. À 47 ans, John devient le plus jeune président des États-Unis. Le nouveau président choisit alors son frère Bobby comme Attorney General, l'équivalent du garde des Sceaux. Pas super comme séparation des pouvoirs, oui, mais pour John, c'est un vrai signe de la confiance qu'il a en son frère cadet, son conseiller et maintenant son ministre. Ensemble, ils travaillent sur les questions de politique intérieure, comme la lutte contre la pauvreté ou la promotion des droits civiques. Et dans ce cadre, ils font libérer de prison un certain Martin Luther King. Mais ils travaillent aussi sur les questions de politique internationale, en pleine guerre froide. Voici trois grands moments qui ont marqué la présidence de JFK. En 1962, quand l'Amérique repère des missiles soviétiques à Cuba, les États-Unis et l'URSS sont au bord de la guerre atomique. Mais John et Bobby négocient un retrait pacifique avec les Soviétiques et sauvent le monde de la destruction. Ensuite, en 1963, John se présente en champion du monde libre en allant dire aux Berlinois divisés par le mur qu'il est avec eux face aux communistes.
As a free man, I take pride in the words. Ich bin ein Berliner.
Et enfin, ce que l'histoire retiendra probablement le plus, c'est quand il annonce à la face du monde qu'il va envoyer les premiers humains sur la Lune.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
Mais John ne verra jamais les Américains se poser sur la Lune à la fin de la décennie. Le 22 novembre 1963, John est assassiné après seulement 2 ans et 9 mois à la tête du pays. L'Amérique est bouleversée et les hommages se multiplient pour celui qui devient instantanément une légende. Dans les 3 ans qui suivent sa mort, 15 millions de personnes viennent sur sa tombe. Le mythe JFK restera intact, malgré, au plan politique, des dépenses astronomiques allouées à l'armée et à la conquête spatiale plutôt qu'à la correction des inégalités sociales, et, au plan personnel, des révélations sur son infidélité et son état de santé très fragile, deux choses qu'il a cachées au grand public de son vivant. Aux États-Unis, quand un président meurt, c'est son vice-président qui lui succède. C'est donc Lyndon Johnson qui termine le mandat de John. Il se fait ensuite élire pour 4 ans supplémentaires et met en œuvre certaines des mesures amorcées par JFK. Par exemple, c'est lui qui ratifie la loi en faveur des droits civiques préparée par John et Bobby. Mais Johnson n'est pas Kennedy. Il est moins beau, moins jeune et surtout moins populaire à cause de sa gestion de la guerre du Vietnam. Plus que Johnson, c'est Bobby qui apparaît alors comme celui qui pourra entretenir la flamme de JFK et combattre les injustices. Comme son frère, il est beau, il n'a que 42 ans, et ce père de 10 enfants est désormais bien connu du public. Et en plus, il défend activement la justice sociale. Ainsi, en mars 68, il fait un geste hautement symbolique en allant retrouver César Chavez, l'équivalent de Martin Luther King pour les Latinos. Ce militant a fait la grève de la faim depuis plusieurs semaines pour protester contre les mauvais traitements infligés aux travailleurs latinos. Et César a dit qu'il voulait rompre son jeûne avec un seul homme, Bobby Kennedy. Bobby accepte et devient instantanément celui en qui les Hispanos placent leur espoir d'être enfin mieux considérés aux États-Unis.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Alors Bobby, sensibilisé à la cause de ses minorités, se lance dans la course à la présidence quelques jours plus tard. Deux moments vont alors marquer sa campagne pour la primaire démocrate. Le premier, c'est son discours du 3 avril 68, quand il apprend la mort de Martin Luther King. Il prend la parole devant la foule pour leur annoncer la nouvelle et lance un appel à l'amour, à l'unité et à la justice.
Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness. But is love and wisdom and compassion toward one another, feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black.
Ce discours mémorable prend un sens particulier à la lumière du deuxième événement qui marque la campagne de Bobby, le 5 juin 68. Le soir où il remporte la primaire démocrate en Californie, Bobby est abattu à Los Angeles. Il laisse derrière lui sa femme Ethel, enceinte, ses 10 enfants et tout un pays abasourdi par cette nouvelle tragédie. Moins de 5 ans après l'assassinat de John, le nom de Bobby vient donc s'ajouter à la liste déjà longue des Kennedy morts prématurément. Une liste à laquelle il faudra ajouter, entre autres, les décès tragiques de 3 enfants de John, puis de 2 enfants de Bobby. Les Kennedy sont donc passés du statut de famille quasi royale à celui de famille maudite. Ils ont suscité l'admiration, puis l'émotion, et aujourd'hui ils continuent de fasciner l'Amérique et d'attirer des pilgrims. Le lieu de pèlerinage pour les Kennedy, c'est le cimetière d'Arlington, à Washington, D.C. Les fidèles affluent dans la capitale pour se rendre sur les tombes de John, Bobby, Jackie et le dernier frère, Ted, devenu lui aussi sénateur. Nous aussi, on va y aller, et pas n'importe quel jour. Un 20 novembre, jour de l'anniversaire de Bobby et avant-veille de l'assassinat de JFK. Ça vous dit d'aller là-bas rencontrer des pilgrims? Allez, on embarque en stop, direction Arlington Cemetery, avec du Kennedy dans les oreilles.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. One we are unwilling to postpone. And one we intend to win.
Pour aller au cimetière d'Arlington, on se retrouve d'abord en Alaska. A priori, aucun lien avec les Kennedy. Mais vous allez comprendre. Vous vous souvenez que j'ai commencé mon voyage au Magic Bus. Eh bien, pour redescendre ensuite à Anchorage, la capitale de l'Alaska, je suis pris en stop par 2 Américains d'origine indienne, Vincent et son frère. On fait 4 heures de route ensemble, on sympathise, et à la fin, Vincent me dit « Si jamais tu passes à Boston, let me know, je pourrai sûrement t'héberger ». Boston, c'est à 7000 km d'Anchorage, donc je sais pas trop si la proposition est sérieuse, mais j'en prends bonne note. Alors, quand 2 mois plus tard, j'approche de Boston en stop, je contacte Vincent. À nouveau, il propose de m'accueillir chez lui dans une banlieue chic de Boston, nommée Brookline. Et j'accepte, bien sûr, trop content de le retrouver ici, dans un tout autre cadre que l'Alaska. Et à Brookline, je découvre qu'à 3 rues de chez lui, il y a la maison dans laquelle est né John Fitzgerald Kennedy. Alors j'en profite pour aller la visiter avec lui.
I've lived next to this place for such a long time, I've never actually been, but I don't know, I might learn something new, so. It's a nice house.
Yeah.
There it is.
Ah, yeah.
La maison est bleue, elle a 3 étages et un porche où on peut imaginer les parents de John dans une chaise à bascule. Devant, un drapeau américain, une silhouette de JFK et une plaque indiquant qu'ici est né John Fitzgerald Kennedy le 29 mai 1917. C'est pas très étonnant que John soit originaire de cette région parce que Boston, c'est une des principales villes où les Irlandais ont immigré. Au 19e siècle, les ancêtres de JFK ont fui l'Irlande et la famine pour rejoindre Boston. Ils étaient pauvres, mais génération après génération, les Kennedy ont gravi les échelons de la société américaine. Les échelons politiques, bien sûr, mais aussi économiques, puisque Joseph, le père de John, a fait fortune dans les affaires, bien aidé par la dot de son mariage. La famille Kennedy, c'est donc l'incarnation du rêve américain. Après, il est de notoriété publique que les affaires du père de John avaient des liens plus que suspects avec la mafia. Mais bon, comme me le fait remarquer un visiteur ici, c'est pas très patriote de parler de ça.
Anyone I've ever talked to, it's kind of said, yes, he was corrupt, but it's kind of un-American to admit that.
Okay, yeah, you don't touch the legends.
Yeah, right. Okay.
I think it's just it's not talked about really. It's kind of left out of the history.
À la naissance de John, Joseph n'est qu'au début de sa carrière. Il est cadre dans un chantier naval de Boston. Et sa femme Rose reste s'occuper de ses deux enfants à la maison. Aujourd'hui, la maison est un lieu de pèlerinage. Et c'est exactement ce que voulait la mère des Kennedy. À la fin des années 60, elle a donné cette maison au service des parcs nationaux pour qu'il en fasse un musée. Mais avant, elle a fait réaménager la maison pour qu'elle reprenne son apparence de 1917, l'année de naissance de John. Ainsi, elle s'est assurée que, d'âge en âge, l'Amérique célèbre la naissance de son fils. Une visite guidée est proposée, et mon guide n'hésite pas à en faire des caisses sur l'éducation Kennedy. Devant la salle à manger, il nous parle de l'esprit de compétition que le père de John instaure chez ses enfants, ce qui passe par la pratique des débats pendant les repas en vue de développer leur éloquence.
The president's mother will say it's probably the most important room in her house. And this is because it's a place where her and her husband really start preparing the children for the futures they envision for them as politicians. They will encourage the kids to get into debates with each other around the dinner table. You can very much argue in the Kennedys' dining room is where they grow their rather known skills as public speakers, debaters, orators, something people still associate with the Kennedys and his presidency even to this day. Started in the dining room.
Bon, faut que je vous le dise, les Kennedy ont quitté cette maison quand John avait 3 ans et demi, donc il y a plus de chances que le petit John ait débattu de ce qu'il y avait dans son assiette que des problèmes politiques de son pays. Mais on ne sait jamais, peut-être que John était alors le Mozart de la joute oratoire. En tout cas, cette histoire n'a pas l'air de choquer les visiteurs. Au contraire, Yvonne, venue en famille, trouve cela fascinant.
It's just overwhelming, fascinating. Yeah, the dynamics of the mom and the dad and how together they raise their children and, you know, how they encourage them to be successful. It's so fascinating.
La réaction d'Yvonne peut se comprendre à la lumière de ce que me raconte sa sœur. Elle m'avoue que depuis qu'Yvonne vit à Brookline, elle est devenue complètement obsédée par les Kennedy.
The truth be told, she's become a Kennedy fanatic. And she wants to know everything about the Kennedys. And she wants to live the life of the Kennedys.
There's nothing wrong with that. And so I do not want
if
their
I
life.
If I want to have any type of intelligent conversation with her, it has to be about the Kennedys.
Cette fascination pour les Kennedy peut s'expliquer par le fait qu'ici, le nom de JFK est absolument partout.
Every street's named Kennedy, every park's Kennedy. Kennedy School at Harvard.
Eh oui, on retrouve même le nom de Kennedy à Harvard, la prestigieuse université. Une façon de rendre hommage à JFK, son ancien élève. Vincent, l'ami qui m'héberge, connaît bien les lieux, parce qu'il est lui-même employé d'Harvard. Il me propose de me faire visiter le campus sur les traces de Kennedy.
Donc là, on est dans Harvard, l'école où Kennedy a étudié. Et donc, on est sur la John Fitzgerald Kennedy Street. Alors, on vient de passer la Kennedy Government School, qui est l'école de sciences politiques. Au bout de la rue, il y a le John Fitzgerald Kennedy Bridge. Et donc là, nous sommes au John Fitzgerald Kennedy Park avec Vincent. Donc il y a 2 colonnes en marbre, une à gauche et une à droite, qui chacune ont un discours de Kennedy, donc son discours d'intronisation, le 20 janvier 1961. Et ça inclut des citations assez connues, notamment...
And so, my fellow Americans... Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Et justement, à côté, sur la Kennedy Government School, il y avait un drapeau déployé qui disait « Ask what you can do ». Ils doivent se demander ce qu'ils peuvent faire pour leur pays plutôt que de se demander ce que le pays peut faire pour eux.
My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
you, John.
Very different from Trump, huh?
C'est ce genre de discours qui a poussé une bonne partie de l'Amérique à partager les idéaux de JFK. Et des années plus tard, il a inspiré son propre frère, Bobby, à se lancer dans la course à la présidence. Continuons maintenant notre pèlerinage pour John et Bobby, en direction d'Arlington. Pour aller au cimetière d'Arlington, je fais ensuite étape à New York, une ville liée au Kennedy, puisque c'est là que Bobby s'est fait élire sénateur et que Jackie a passé la majeure partie de sa vie ici. Mais moi, je suis là pour d'autres pèlerinages, et il y en a un que je vous raconterai au prochain épisode. Mais si je vous parle de New York maintenant, c'est parce que j'y fais une rencontre qui va avoir son importance. Un matin, je rentre dans un café de Manhattan et je tombe nez à nez avec une connaissance. Une très bonne connaissance même, puisqu'il s'agit de Freda, mon ancienne manager de Londres. La coïncidence est incroyable, mais le plus dingue, c'est que cette Américaine est née à Brookline comme JFK, qu'elle a été à la même école primaire que les Kennedy et qu'elle vit aujourd'hui, non pas à New York ou à Londres, mais à Washington DC, là où JFK et Bobby sont enterrés. Et pour couronner le tout, elle me dit qu'il n'y a pas de problème pour qu'elle m'héberge à Washington, dans sa famille. Pour une fois, je vais donc arriver dans une ville en sachant déjà où dormir. Et quelques jours plus tard, je me retrouve donc à fêter mon anniversaire avec elle, comme quand on était à Londres, sauf que là, le gâteau au chocolat n'est pas posé sur mon bureau de travail, mais sur la table de sa cuisine, à Washington. Pour rester dans le thème, on écoute ce morceau d'histoire.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
En marchant dans Arlington Cemetery.
Alors Arlington, c'est un immense cimetière militaire, 5 fois grand comme le Père Lachaise. Plus de 3 millions de visiteurs y viennent chaque année. Et en plus des tombes de John et Bobby, on peut y trouver d'autres sépultures qui rappellent l'ère des Kennedy. Il y a celle de l'astronaute John Glenn, qui, sous JFK, a été le premier Américain en orbite autour de la Terre. Il y a celle du militant noir Medgar Evers, assassiné par un membre du Ku Klux Klan. Et c'est à la suite de ce meurtre que les frères Kennedy ont proposé la loi sur les droits civiques. Et enfin, il y a celle, nombreuses, de militaires tombés au Vietnam. Avant le début officiel de ce conflit, John a eu une position ambiguë. Il a d'abord envoyé 16 000 hommes au Vietnam, puis il a fait entendre qu'il retirerait les troupes s'il était réélu. Mais Kennedy ne pourra pas être réélu. Il meurt avant même la fin de son mandat, le 22 novembre 1963. L'histoire retient que celui qui a assassiné Kennedy s'appelait Lee Harvey Oswald et qu'il a lui-même été assassiné 2 jours plus tard par Jack Ruby, en portant ainsi ses secrets dans la tombe. Alors est-ce vraiment Oswald qui a tué Kennedy? Et pour le compte de qui? Les théories complotistes se succèdent, entre celles qui impliquent des pays étrangers comme l'URSS ou Cuba, et celle qui incrimine des acteurs locaux, la CIA, la mafia ou encore les suprémacistes blancs. Depuis le drame, une bonne partie des 5 millions d'archives a été rendue publique. Et en 2017, Trump a voulu déclassifier les derniers documents sur l'assassinat de Kennedy. Mais il a été obligé de faire marche arrière pour, je cite, « des raisons de sécurité nationale ». Le meurtre de JFK continue donc de susciter l'incompréhension en Amérique, mais aussi l'émotion. Et cette année, 57 ans après la mort de JFK, le grand Bob Dylan lui a rendu un hommage avec une chanson fleuve intitulée « Murder Most Foul », « Crime le plus infâme ». En voici un extrait.
T'was a dark day in Dallas, November 63. the day that will live on in infamy. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am? Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car.
Là, ça y est, j'approche de la tombe de Kennedy. Je suis dans Arlington Cemetery et il y a un silence incroyable. Donc c'est marqué Silence and Respect et il n'y a pas une personne qui parle, si ce n'est moi. Donc il y a quelques marches en marbre, une petite dizaine. Et là on arrive sur une esplanade en marbre. Et au milieu de cette esplanade, il y a des pierres. Il y a une flamme qui sort de ces pierres, un peu comme la flamme du souvenir. Juste devant cette flamme, il y a quatre rectangles noirs. Et les deux du milieu, c'est John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963, et Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, 1929-1994.
Ici, les pèlerins défilent toute la journée, sans interruption. Il y a pas mal d'Irish Americans et de catholiques, comme lui. Mais pas que. Pour vous, j'ai sélectionné trois interviews avec des pilgrims. D'abord, celui d'Annalys. Annalys a plus de 60 ans et a donc vécu son enfance sous JFK. Pour elle, l'assassinat de John a été un immense choc et les images du drame ne l'ont jamais quitté. Annalys vient donc ici pour enfin guérir son trauma, son traumatisme de jeunesse.
When I was five, I was traumatized. We were just all sitting around and people started screaming and yelling. It was very traumatic and the days after were traumatic. And I just felt like I always wanted to come so that I could make that circle, pay my respects. And not think about all those videos where I saw him getting shot.
So it is the first time you're coming?
Yeah, I've always wanted to come. So I guess today was the day.
La tombe de JFK est donc aussi un lieu où les pèlerins vont chercher la guérison, 57 ans après le traumatisme de sa mort. Notre deuxième exemple nous montre, lui, que les tombes de John et de Jackie sont aussi un lieu de compassion. Jackie s'est retrouvée veuve à 34 ans seulement, et elle a alors reçu 1,5 million de lettres de condoléances. Alors ici, une pilgrime, Florence, pense à Jackie, et à la peine qu'elle a ressentie en allumant la flamme éternelle sur la tombe de son mari.
It is poignant to be up here because up here is the eternal flame, which was lit by Jackie Kennedy on the day that she buried her husband and our nation buried our most beloved President JF Kennedy Jr. And if you look at it long enough, you will see that it blows in every direction. And to me, that means that all directions of the world are covered by the sentiment that Jackie Kennedy felt when she lit that flame.
Florence vient de Los Angeles. Elle est afro-américaine et elle me fait remarquer que, sans les lois de JFK, elle et moi ne serions pas en train de nous parler ici. Parce que pour accéder à la tombe, il y aurait une file pour les blancs et une file pour les noirs.
I am standing up here today speaking to a man who is not of color, even though I am of color. Before that, you would not have been allowed to get close enough to me to even record this. Because I would have had to walk on the side.
Si elle vient ici, c'est aussi par gratitude pour JFK. Enfin, une autre tendance des pilgrims ici, c'est de vouloir se connecter à JFK, avec ce qu'il représentait alors pour l'Amérique et pour le monde. C'est le cas d'Alain, venu du Québec. Alain a suivi les pas de JFK de Brookline à Washington, et c'est ici qu'il se sent le plus en communion avec lui.
Ici, ben, je suis content aussi de voir... Ben... Il a été au Sénat, il a été au Capitole, je veux dire, il a été vécu à la Maison-Blanche. Puis de venir ici, ouais, c'est un pèlerinage. Je marche sur les pas de cet homme-là. en te parlant, je vois des gens qui marchent puis qui signent de la croix. Ben, je l'ai fait moi aussi tantôt. Je sais pas, c'est... l'impression, je sais pas, de communier, de connecter avec son esprit. Je pense que c'est un homme de bien, c'est un homme bon. Ça me parle, ça me touche.
Anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed the good they die young. I just looked around and he's gone.
Et maintenant, je vais me diriger vers la tombe de Bobby. Robert Kennedy, lui aussi assassiné quelques années plus tard. Pour atteindre la tombe de Bobby Kennedy, j'ai juste besoin de faire quelques mètres sur la gauche. Donc il y a une première plaque blanche qui dit Robert Francis Kennedy 1925-1968. Et derrière, il y a une simple croix blanche en bois qui doit faire 50 cm de haut. Et c'est tout.
Il y a moins de monde sur cette tombe, sûrement parce que Bobby, lui, n'était pas président quand il a été assassiné. Mais en ce jour de l'anniversaire de Bobby, je remarque tout de même un pilgrim parmi les visiteurs. Il est seul, porte un costume cravate recouvert d'un pardessus beige type agent secret, et il se recueille devant la tombe pendant de très longues minutes. Lui aussi finit par me repérer, il vient vers moi et engage la conversation. Il s'appelle Tom, a 77 ans, et est un fidèle parmi les fidèles.
I have been here every year on the anniversary of his death ever since the first year.
And you also come sometimes for his birthday.
I've been coming on the anniversary of his birth probably for 25 years.
So twice a year.
Yeah, it's become a ritual. You think about it, it's the least I can do. It's not hard. It's just remembering. I don't want to forget.
Ce que Tom ne veut pas oublier, c'est l'homme qui a voulu servir son pays et lutter contre la pauvreté. Deux idéaux qu'il partage avec lui. Alors chaque année, Tom revient. Il se souvient et Bobby lui manque.
It's another year. I'm here and he's not. And I miss him. He spoke to our ideals. They all did. We don't get that now.
Has anybody seen my friend Bobby? Can you tell me where he's gone? You know he freed a lot of people, but the good they die young. Yeah, I just looked around and he was gone.
La fidélité de Tom me touche, et dans le froid de novembre, nous discutons pendant plus d'une heure de Bobby, des Kennedy et de la politique américaine. Et je découvre que Tom est un pilgrim XXL.
Three brothers and two visits each. So I'm here six times a year.
Il ne vient pas deux fois par an, comme je le croyais, mais six. Parce qu'en plus des deux dates anniversaires pour Bobby, il vient aussi aux anniversaires de John Fitzgerald et de Ted. Comme eux, Tom voulait servir son pays. Alors il s'est engagé dans l'armée, puis a travaillé pour des hommes politiques au Congrès américain.
I was on the staff at the House of Representatives and at the Senate. I spent 5 years at the House and 10 years at the Senate when Senator Edward Kennedy was there. So I've done those kinds of things because I think they're important.
En venant ici, Tom ne veut pas oublier ses hommes, mais aussi ses propres convictions.
They died and they died tragically and suddenly and awfully. But I believe in the same things, so I don't want to give them up. And I have, fortunately, not yet become cynical to say that, oh, it doesn't really matter what anybody does. It's all going to turn out bad. I don't believe that. I don't think that way. People should try.
Il veut croire que oui, c'est toujours possible d'améliorer les choses en politique en étant quelqu'un de bien, comme les Kennedy. Enfin, une des raisons pour lesquelles Tom vient ici, c'est pour discuter avec des gens comme moi, pour raconter que Bobby était un homme bon. Et parmi toutes les personnes qu'il a vues ici, certaines l'ont marqué. Il était là quand Bobby lui-même s'est recueilli sur la tombe de son frère. Il était là aussi quand la femme de Ted Kennedy a visité son défunt mari, et ensemble ils ont discuté un bon moment. Il était encore là pour sympathiser avec l'ancien attaché de presse de Bobby. Et pour lui, rencontrer ces gens ici, c'est toucher l'histoire.
It was just fabulous knowing him. I refer to it as kind of touching history. These people are real, and when you see them in other circumstances, you get to know that they are real.
Comme Tom, je vais moi aussi être amené à toucher l'histoire. Non pas à Arlington, mais à l'autre bout du pays, en Californie. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Comme le témoignage de Tom m'a marqué, je me suis dit, quand j'irai à Los Angeles, j'irai à l'endroit où Bobby a été assassiné, en souvenir de Bobby et de Tom. Et c'est ce que je fais, 3 mois plus tard.
Je suis sur Wilshire Boulevard à Los Angeles, sur une section baptisée Robert F. Kennedy Memorial Parkway. Et à l'endroit où se tenait autrefois l'Ambassador Hotel, il y a aujourd'hui un Robert F. Kennedy Inspiration Park. C'est dans cet hôtel, l'Ambassador, que Robert F. Kennedy s'est fait assassiner le 5 juin 1968. Et donc pour commémorer Kennedy, il y a 2 choses. Il y a cet Inspiration Park avec de nombreuses citations. Et derrière, il y a une école qui s'appelle Robert F. Kennedy Community School. Et on va y aller après. Je vais vous lire les différentes citations. Il y en a une première. It is young people who must take the lead. The youth of our nation are the clearest mirror of our performance. Donc ce sont essentiellement des citations qui parlent des jeunes et de l'éducation. Et si on donne à la jeunesse l'opportunité de s'épanouir et de réussir, alors c'est la réussite de la nation. Ces citations résonnent avec le fait que juste derrière, il y a donc cette école, Robert F. Kennedy. Je suis à la bibliothèque de la Robert F. Kennedy School et l'hommage qui est rendu ici à Bobby Kennedy est vraiment de taille. Tout au fond de la bibliothèque, il y a un immense panneau qui doit faire 15 mètres de large et 4 mètres de haut, qui représente des mains tendues vers Bobby Kennedy. C'est quasiment biblique. Et quand je me retourne, au-dessus de l'entrée, il y a un autre panneau similaire. Et cette fois, c'est Bobby Kennedy qui rompt le pain avec César Chavez. Cette bibliothèque se tient exactement à l'endroit de la ballroom, la salle de bal, dans laquelle Bobby Kennedy a fait son dernier discours, juste avant de se faire assassiner dans les coulisses.
C'est aussi ce que me raconte Rebecca, la bibliothécaire. Elle me montre des images d'archives, où l'on voit la foule qui se tenait ici, un soir de victoire. Rebecca m'avoue s'identifier à tous ces gens qui avaient placé leurs espoirs en Bobby, pour améliorer la condition des minorités et mettre fin à la guerre du Vietnam.
He's talking about ending the Vietnam War. He's talking about civil rights.
And the people in the United States want to change. What I think is quite clear is that we can work together in the last analysis, and that what has been going on within the United States over the period of the last 3 years, the divisions, the violence, the disenchantment with our society, the divisions, whether it's between blacks and whites, between the poor and the more affluent, or between age groups, or on the war in Vietnam, that we can start to work together. We are a great country, a selfish country, and a compassionate country. And I intend to make that my basis for running and over the period of the next year.
Every time I listen to that speech and think about the people that were gathered, like right here, right in this room that still looks the same, And I was telling Paul Charette that the library is named after him, you know, and how beautiful it is because that legacy is really carried out on the daily.
Rebecca me parle aussi de Paul Charette, l'ami de Bobby qui s'est battu pour faire construire cette immense école sur le lieu du drame et qui a donné son nom à la bibliothèque. Je vois très bien qui est Paul Charette parce qu'il apparaît dans Bobby Kennedy for President, un docu Netflix que je vous recommande par ailleurs. Paul Charette bossait sur la campagne de Kennedy. Il était là le soir du drame et lui aussi, il s'est pris une balle en pleine tête et il a survécu.
I think if you could interview him, he would really talk to you about that. I'm happy to share his email if you don't have it.
Yeah, we'd be very happy to.
Yeah, totally.
Rebecca connaît vachement bien Paul et elle décide de lui écrire pour lui parler de moi. Et quelques minutes plus tard, je reçois un appel de Paul Charette. Paul me dit « J'ai vu l'email de Rebecca, ton projet m'intéresse. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre ? Si tu veux, tu peux venir chez moi, maintenant. » Je file donc chez Paul Charette pour un rendez-vous avec l'histoire.
Donc là, je suis à l'extérieur de la maison de Paul Charette. Et je sonne.
Hello.
Hello, Paul.
Hello, how are you?
I'm good, thank you very much.
Glad to see you.
Yes, glad to see you too.
That's what? Our favorite dog.
Wow, okay, so...
Lovable.
Thank you very much for calling me right after the email. Like, you're the most responsive person and you're 95 years old, so...
Yep. I got to be. Got to prove myself.
Et oui, Paul Charette a aujourd'hui 95 ans. Pas mal pour un type qui s'est pris une balle dans la tête à 44 ans. Faut dire que cet ancien chef du syndicat automobile de Détroit est un battant. Et de mes 3 heures de discussion avec lui... Ce que je retiens essentiellement, ce sont les 2 grands combats qu'il a menés depuis le jour où Bobby et lui se sont fait tirer dessus. Le premier combat qui a occupé sa vie, c'est faire la lumière sur l'assassinat de Bobby. Officiellement, l'assassin est Siran Siran, un jeune Jordanien toujours en prison pour le crime qu'il a commis. Mais Paul est persuadé qu'il y avait un second tireur et que Siran Siran n'était qu'un fusible d'un plus grand complot contre Bobby.
The horror of all that still gets to me, but it's... been able to treat it positively by getting involved in investigating who shot him, because that took me a long time to get through that. But Albert Ornstein came to me here in 74 and convinced me there was evidence that something else was going on than the official.
Alors à 95 ans, il continue non seulement à chercher de nouvelles preuves, mais aussi à faire libérer Siran Siran, l'homme qui lui a tiré dessus. Et il est persuadé d'avoir enfin la preuve qui change tout.
And so here we are. What do we do with this? So I'm now working with a couple of attorneys to decide a strategy and see what we do with this new evidence. Because it is new.
Le deuxième combat auquel Paul a consacré sa vie, ça a été de faire construire la fameuse école que j'ai visitée. Pour faire aboutir ce projet pharaonique, Paul a remué ciel et terre. Il a dû se battre contre la conservation du patrimoine qui voulait sauver l'ambassadeur hôtel. Il a dû convaincre le school board de financer une école à 600 millions de dollars. Il a dû récolter l'adhésion de chacun des 9 enfants de Bobby encore en vie. Et surtout, surtout, il a dû se battre contre un promoteur immobilier qui détenait le terrain, un certain Donald Trump.
Just a wonderful thing to happen, to be able... Not only to get the ambassador down, which was owned and controlled by Donald Trump at one point. Yeah, you know, he had control of the property and wanted to build a 125-story golden towers, actually golden, the whole thing. But at some point, he took his money out of there. And Donald Trump's comment was, they took my property away from me like Nazis.
donc l'hôtel où Bobby a été assassiné, Trump aurait pu en faire un gratte-ciel pour milliardaires. La famille Kennedy aurait pu en faire un lieu de pèlerinage. Mais Paul, lui, a préféré en faire une école au service de 4000 enfants défavorisés. Ainsi, il continue le travail de son ami Bobby en faveur de l'éducation pour les plus pauvres. Et ça, ça vaut bien un pèlerinage. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec les fans d'Amérique et tous ceux à qui vous voulez faire découvrir John et Bobby. Et pour rester dans le thème de la conquête spatiale, mettez-moi des étoiles sur Apple Podcasts. C'est la plus importante plateforme de podcast et il faut continuer de faire monter Pèlerinage américain dans les classements. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast sur la page patreon.com/salutlespilgrims. Vous pouvez retrouver le lien sur la description du podcast. Je consacre beaucoup d'énergie à écouter mes centaines d'heures de rush et à les monter pour vous faire vivre mon pèlerinage américain. Je suis ravi que vous l'écoutiez, mais si ça pouvait me permettre de financer les prochains épisodes, ce serait encore mieux. La suite, justement, c'est une nouvelle série sur les icônes de la contre-culture américaine, et on commencera avec un pèlerinage pour un autre John, lui aussi assassiné aux États-Unis, John Lennon. À l'occasion des 40 ans de sa mort, je vous ferai vivre le pèlerinage pour John à New York. Allez, à la prochaine les pilgrims.
And so my fellow Americans, I have a dream.
The magic bus, quoi.
Ah la 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 la.
He was just extraordinary. There's nobody ever before or since like him.
The way he is thinking about freedom, that changed my life.
He's everything. I mean, he's a poet, he's an artist, he's an inspiration. I'm a big fan.
I have been here every year on the anniversary of his death ever since the first year.
Je sais pas, peut-être que je suis la réincarnation de Janis Joplin.
He's the second person I want to see in heaven.
My house is your house. Mi casa es tu casa, mi amigo.
I picked you up hitchhiking and I love you, brother.
Okay, Alex, be good.